La bibliothèque orbitale. Épisode 2. Résumé de l'épisode précédent. La situation est grave, et même désespérée. Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, armé de son seul courage et d'un couteau suisse atomique, doit faire face à un danger mortel. À bord de son vaisseau, la mouette caucasienne, il a atterri sur la planète Gribo 7, à la recherche d'une station Shell où faire le plein. Hélas, nous sommes un dimanche, toutes les stations sont fermées, et en plus il a oublié sa carte bleue chez lui. Errant sur des chemins que nul n'a empruntés depuis des lustres, accablé par la faim et la soif, abruti de fatigue, abruti tout court d'ailleurs, Pitou sent la faim approcher et la camarde souffler son haleine mortifère sur sa nuque lorsque soudain... Pendant ce temps, le narrateur, c'est moi, toujours coincé dans une station spatiale russe désaffectée, accablé par la solitude, la consommation immodérée de Gewürztraminer et la disparition de Maître Capello, tente vainement de trouver le sommeil en comptant les moutons. Électriques, en l'occurrence. Un bon écrivain est un écrivain mort. Méditons quelques instants sur cette réflexion caustique, mais ô combien juste, de Frédéric Lefebvre, dans son impérissable chef-d'œuvre, Zadig et Voltaire sont sur un bateau. Mort, Léon Groc l'est depuis 1956, ce qui ne nous rajeunit pas. Depuis, de temps à autre, une poignée de spéléologues de l'anticipation scientifique a eu la bonne idée d'exhumer quelques-uns de ses textes et de les faire redécouvrir à ses contemporains. Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais trois romans que Les Moutons électriques rééditent en un fort beau volume, comme tout ce que publient Les Moutons d'ailleurs, accompagné d'un paratexte bref mais éclairant signé Francis Valéry. Démarré juste avant la boucherie de la Première Guerre mondiale et achevé quelques années après la charcuterie de la Seconde, l'œuvre de Léon Groc est relativement importante, quoique périssable. Qui aujourd'hui pourrait avoir l'idée saugrenue de lire L'aventure sentimentale de Maurice Louvier, La filleule de Marie-Antoinette ou La revanche de Cricri ? Je n'invente évidemment rien. Dans le domaine qui nous intéresse, domaine qui n'est pas le bon usage du bigoudi en milieu capillaire, je le précise à l'intention des apprentis shampouineuses qui auraient atterri sur ce podcast à la suite d'un clic malencontreux. Dans le domaine qui nous intéresse, donc, on y trouve une bonne dizaine de textes relevant peu ou prou de la science-fiction, dont la moitié au moins mériterait d'être sauvée de l'oubli. Les trois réunis ici ont ceci d'intéressant qu'ils sont très variés d'inspiration. Le plus ancien d'entre eux, La Cité des Ténèbres, datant de 1924, offre une sorte de pot-pourri de toutes les thématiques subterrestres en cours à l'époque. La construction d'un tunnel sous la mer, l'exploration de cavernes inconnues, la découverte d'une civilisation souterraine et celle d'espèces animales qu'on croyait éteintes. Une invasion de Sélénite, publiée en 1930, adopte de son côté la forme de l'enquête policière et raconte les manigances de quelques gredins et filous, découvreurs d'une forme de vie lunaire dont ils comptent faire usage pour semer le chaos et l'anarchie. Quant au troisième texte, La planète de cristal, paru en 1944, et certainement le plus original des trois, il y est question de la découverte d'un second satellite en orbite autour de la Terre, du voyage d'une poignée d'explorateurs sur le dit satellite, et de la rencontre avec ses habitants. Soyons honnêtes, aucun de ces trois romans ne peut prétendre au statut de chef-d'œuvre. Il s'agit de romans populaires, usant sans modération des conventions du genre. Les personnages y sont manichéens au possible, et les rebondissements rocambolesques. Du point de vue de l'écriture aussi, l'œuvre accuse son âge, et il faut faire preuve d'un certain flegme pour lire sans ricaner certains passages teintés d'un colonialisme tout droit issu d'une époque où il était encore de bon ton de civiliser les peuplades primitives à grands coups de cravache dans la gueule, comme lorsque les héros de la Cité des Ténèbres décident de reprendre en main les sauvages hirsutes qu'ils ont découverts au fond d'une caverne et dont les mœurs barbares et franchement pas chrétiennes ne sauraient être tolérées plus longtemps. Côté sentimental, sujet qui occupe une part non négligeable dans ces trois récits, là aussi les relations entre hommes et femmes obéissent scrupuleusement aux mœurs de l'époque, Et il faut moins de temps à un quelconque scientifique isolé dans sa cabane en rondin pour fabriquer une fusée capable d'atteindre la Lune ou quelques planètes proches qu'il n'en faut à un soupirant pour convaincre l'élu de son cœur de le laisser subrepticement glisser sa main de son genou jusqu'à sa culotte. Pourtant, malgré ces conventions d'un autre âge, parfois embarrassantes, les trois romans de Léon Groc méritent d'être redécouverts aujourd'hui. D'abord parce que les récits sont rythmés et que les événements s'y succèdent suffisamment vite pour qu'on n'ait jamais le temps de s'ennuyer à leur lecture. Mais aussi et surtout parce que chacun des romans, à sa manière, développe quelques idées originales, au moins dans le contexte de leur publication. La Cité des Ténèbres propose la synthèse de plusieurs thématiques en vogue à l'époque, réunies au sein d'une intrigue menée tambour battant. Plus étonnant, La Planète de Cristal met en scène une vie extraterrestre, évoluant dans un univers en deux dimensions. À la lecture, on pense évidemment au Flatland d'Edwin Abbott, paru en Angleterre en 1884, mais qui ne sera traduit en France qu'en 1968. Léon Groc connaissait-il le texte original ? Dans sa préface, Francis Valéry suppose que oui, et on est tenté de le croire, mais le doute subsiste. Quant à une invasion de Sélénites, là aussi son originalité repose sur la forme de vie supposée vivre à la surface de la Lune, assez inédite pour l'époque. Malheureusement, Groc ne développe pas suffisamment ce point et se contente d'utiliser ces Sélénites comme des armes de destruction massive tombées entre de mauvaises mains. Alors certes, il faut faire preuve d'un minimum d'indulgence et les resituer dans le contexte de leur création pour apprécier à leur juste valeur ces trois romans, mais il serait dommage de ne recommander leur lecture qu'aux historiens du genre, lesquels de toute façon possèdent les éditions originales depuis belle lurette. En romancier populaire maîtrisant toutes les ficelles de son art, Léon Groc savait écrire des récits suffisamment alertes et enjoués pour être lus avec plaisir aujourd'hui, et suffisamment originaux dans leur développement pour se distinguer du tout venant de l'ASF d'avant-guerre. On peut d'ailleurs souhaiter que Les Moutons électriques ne s'arrêtent pas là, et consacrent à l'auteur un second volume. On trouve encore dans la bibliographie de l'auteur d'autres textes qui mériteraient d'être exhumés. Je pense notamment à certains des romans qu'il a coécrits avec son épouse, Jacqueline Zorn, comme L'émetteur inconnu et L'univers vagabond. Le premier met en scène un terroriste de la TSF, l'équivalent pour l'époque d'un émetteur de Skyrock, si vous voulez, utilisant les ondes radio pour commettre ses crimes. Le second est l'un des tout premiers romans au monde à imaginer, on est en 1950, un navire Génération, parti de la Terre pour un voyage de plus d'un siècle, à la recherche d'un monde habitable. Le roman décrit en outre une forme de vie minérale, elle aussi assez originale pour l'époque. Bref, Léon Groc fait partie de ces auteurs qui méritent de ne pas sombrer dans l'oubli. Et l'on ne peut donc que saluer le choix des Moutons électriques de le rééditer aujourd'hui. Donc, on prend son stylet et on note La Cité des Ténèbres et autres voyages excentriques de Léon Groc, Les Moutons électriques, collection La Bibliothèque Voltaïque. Et puisqu'on est chez Les Moutons, restons-y pour signaler l'apparition du 12e tome de fiction, qui semble donc avoir retrouvé son rythme semestriel. Comme d'habitude, une bonne moitié du sommaire est à lire absolument. Alors, petite sélection personnelle, Le Niger du futur proche de Nnedi Okorafor, à la fois sordide et beau, Les Posthumains de Paolo Bacigalupi, jeune auteur dont on devrait bientôt découvrir en France le roman The Wind Up Girl, qui a raflé l'an dernier aux États-Unis toute une tripotée de prix, La fin du monde grouillante et franchement peu ragoûtante qu'imagine Wayne Whiteman, L'étonnante chasse à Oussama Ben Laden que nous a concocté David Marousek, auteur que je préfère infiniment dans le domaine de la nouvelle que du roman, et J'ai gardé le meilleur pour la fin, Économancien de Caroline Ives-Gilman, qui offre finalement l'explication la plus vraisemblable et cohérente à la crise économique que nous connaissons aujourd'hui. Bref, un excellent numéro de fiction, comme d'habitude. Si je devais faire la fine bouche, et d'ailleurs je vais faire la fine bouche, mon seul vrai regret concerne les deux textes français retenus au sommaire, signés Jeanne A. Debat et Sarah Doc, qui ont en commun d'être très longs, très chiants et en définitive très vains. Bon, pas grave, le reste contient suffisamment de bonnes choses pour faire de fiction l'une des lectures indispensables du moment. Et puisque cet épisode est placé sous le signe du mouton électrique, il me faut signaler l'apparition chez Emmanuel Proust Édition du premier volume de l'adaptation en BD du roman de Philippe K. Dick, signé Tony Parker, Non, pas le basketteur, un autre Tony Parker, dessinateur celui-là. Je ne suis pas sûr que le terme adaptation soit celui qui convienne le mieux d'ailleurs. En préambule, l'éditeur nous informe que, et je cite, à l'initiative de la famille Dick, c'est-à-dire Zaza, Roro et Bébert Dick, cette adaptation en BD du roman Do Androids Dream of Electric Sheep reprend dans son intégralité le texte original de l'écrivain Philip K. Dick, écrit en 1968. Ah! Vous allez me dire donc qu'il s'agit d'une version illustrée du roman. Eh ben, pas vraiment non plus. Tony Parker a bien réalisé une bande dessinée classique, avec son découpage traditionnel et ses phylactères, mais y a intégré tant bien que mal, d'ailleurs plutôt mal, l'intégralité du texte original. Et le résultat est étrange, diront les plus optimistes, désastreux se lamenteront les autres, à chier concluront les plus lucides. Les planches sont noyées sous un déluge de textes, les dialogues ne font l'économie d'aucun dit machin, répondit un tel et s'exclama Bidule, et le dessin, pas spécialement beau d'ailleurs, ne fait qu'illustrer pauvrement et de manière tout à fait redondante ce que nous raconte le texte. En matière de transposition d'un médium à un autre, le résultat est aussi absurde et calamiteux que le Sin City de Roberto Rodriguez et Frank Miller. C'est dire l'ampleur du désastre. Deux autres volumes sont à paraître dans les prochains mois, mais je vais m'abstenir, c'est mauvais pour mon cholestérol. Cry.